L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la
moutarde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez L'Épluche Livre et nous entamons le deuxième service de notre émission spéciale « Elles épluchent les livres ». Je suis en compagnie de Noélie Sanchez, Azadeh, Pascal Battistelli, Magali Milot et de Gaëlle de Decker. Je peux vous dire que ces autrices sont des crèmes. Si vous n'aviez pas faim, j'espère vous avoir ouvert l'appétit. Alors après, vous n'êtes pas obligé de déguster votre crème avant la salade, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que moi, j'ai tendance à commencer par le café, mais bon, ça reste entre nous. On s'intéressera pour cette deuxième émission au processus créatif, à l'habitude d'écriture chez nos autrices. Donc je vais vous poser cette question, cette première question, Azadeh, si vous voulez bien démarrer la danse.
Oui.
Quelles sont vos habitudes d'écriture ?
J'écris le matin, surtout. Et je fais un tour dans mon jardin parce que j'adore jardiner et je suis fan. Et après, à partir de 8h30, 9h, je me mets devant l'ordinateur. En principe, je prends des notes à la main et après je les tape et voilà. C'est rare que j'écrive dans la soirée.
C'est une vraie hygiène, c'est-à-dire c'est une écriture vraiment quotidienne avec une habitude récurrente.
Alors quand j'écris un livre... je viens de finir donc mes deux livres, oui. Pendant ce temps-là, je me fais la règle de rester régulière, sauf exception. Et en ce moment, c'est un peu le repos, bien que je suis en train de réfléchir à un nouvel ouvrage. Donc, j'écris pas tous les jours.
Voilà. Vous n'êtes pas au fourneau systématiquement. Par contre, le voyage intérieur, vu que vous cultivez votre jardin, littéralement, avant d'écrire, ça c'est...
Ah oui.
C'est obligatoire.
Obligatoire.
Qu'est-ce que ça vous apporte ?
La sérénité, et puis c'est très poétique, parce que j'aime beaucoup la poésie, et j'essaye d'introduire dans tous mes livres. Donc j'ai besoin de cette inspiration de la nature.
Et on retrouve la nature dans vos textes ? Qu'est-ce qu'elle présente ?
Beaucoup.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sous quelle forme ?
Sous forme de poésie ou de description, je suis toujours souvent dans un jardin.
D'accord.
Dans à peu près tous mes livres, y compris dans le petit recueil de poésie.
D'accord. Donc un jardin accueillant, ce n'est pas une nature sauvage, ce ne sont pas des grands espaces, c'est un jardin un peu comme une maison, un lieu à soi.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui. C'est des jardins que souvent aussi cultivés par moi-même. Mmh. Bon, dans mon jardin d'enfance, c'était pas moi parce que j'étais trop petite. Mais le jardin dans lequel je vis, c'est l'inspiration de mon jardin d'enfance.
Et que trouve-t-on dans votre jardin, Azadeh ?
Des fleurs, des arbres fruitiers, des pistachiers, des grenadiers, des plaqueminiers, cognassiers, amandiers, pommiers, poiriers.
Beaucoup d'arbres.
Beaucoup d'arbres.
Beaucoup d'arbres fruitiers.
Oui, parce que ça fait les fleurs et c'est des fruits. Les fruits sont très beaux. C'est aussi beau que les fleurs. Et puis beaucoup de fleurs aussi. Mais mes arbres, j'adore les arbres. Voilà.
Est-ce que vous vous astreignez aussi à un nombre de lignes, un nombre de mots dans votre écriture quotidienne ou ça peut être très libre ?
Non, c'est libre, c'est naturel. J'aime bien des phrases courtes, mais... Ça peut dépasser un peu. Non, c'est très naturel, c'est spontané. D'ailleurs, malheureusement, je ne me lis pas X fois avant de publier.
Vous faites lire par quelqu'un d'autre ?
Ah oui, ça, il faut bien, d'autant plus que je suis d'origine étrangère, donc il est très important que d'autres personnes me lisent. Mais oui, c'est ça.
Quelle est la langue qui vous vient le plus naturellement pour l'écriture ?
Le français.
Le français. Mmh. Vous me rappelez Leïla Slimani à ce propos-là. Elle a sorti dans son dernier livre « À l'assaut de la frontière ». Elle en parle aussi. Vous la connaissez ?
Oui, je la connais. Moi, elle ne parle pas sa langue maternelle arabe.
Effectivement.
Mais moi, je parle ma langue maternelle. D'ailleurs, j'essaie de mettre une ou deux phrases en persan dans mes livres. Mmh. Mais non, pour écrire, j'ai besoin, c'est le français. Alors, on m'a demandé, dans mon dernier livre, qui est un livre de poésie, de le mettre en bilingue, de traduire des poèmes en persan, ou farsi, c'est la langue iranienne. J'y réfléchis, mais je ne sais pas si je vais le faire.
Mmh. Un projet pour plus tard. En tout cas, là, vous êtes en jachère entre deux ouvrages.
Oui, en fait, c'est le cinquième livre que je vais écrire. C'est tout autre chose, je peux le dire.
Ah oui.
En fait, j'étais jurée de cour d'assises en mois de septembre, et donc j'ai besoin de absolument. Je trouve que c'est nécessaire que les gens sachent comment ça se passe, parce qu'on est très loin de la réalité dans la belle société française. Et donc j'ai demandé d'écrire, et les juges m'ont dit : « Oh là, vous savez, tout le monde dit qu'il va écrire, mais personne l'a fait. Faites. » Donc ça, c'est mon projet qui est presque en cours, mais je dirais presque, parce que c'est embryonnaire.
Il faut laisser le temps au temps.
Mais après, ce sera un autre livre de poésie, parce que j'en ai beaucoup écrit, des notes, mais il faut les mettre en forme. Et l'écriture est très chronophage, et on pense que le livre est fini, mais jusqu'à la publication, il faut encore un temps assez long.
Donc l'écriture comme un jardin, cette écriture qu'on cultive et dont on cueille les fruits, dont on recueille les fruits pour la poésie, puisque quand on remet ensemble, on crée un recueil poétique. Merci beaucoup Azadeh pour ce partage.
Avec grand plaisir.
Gaëlle de Decker, même question. Donc vous écrivez plutôt par rapport à votre expérience professionnelle en tant que psychologue clinicienne, mais pas que. Quelles sont vos habitudes d'écriture ?
Disons que moi, je n'ai pas vraiment d'habitude. J'écris quand je peux, j'écris quand j'en ressens vraiment le besoin, et ça peut être un peu tout le temps. Il peut se passer plusieurs jours sans que j'écrive une ligne. Mmh. Et j'écris tout en même temps. C'est-à-dire que j'ai un projet en cours, mais je peux écrire de la poésie à côté. Entre deux séances, je peux écrire quelque chose qui est issu de la séance et qui me fait venir une image, et c'est un poème qui... Voilà, donc j'ai plein de carnets. Alors, c'est pas des feuilles volantes, comme on a pu dire hors micro, mais c'est dans des carnets. Et puis, à un moment donné, oui, il va y avoir un recueil, il va y avoir une mise en forme, et ça va prendre corps.
Donc là, on n'est pas sur... sur un projet, comment dire, on n'est pas sur de l'agriculture, entre guillemets, comme l'était Azadeh, on n'est pas vraiment sur du jardinage, on est plutôt sur de l'instantanéité, si je comprends bien.
Oui, à la fois, c'est du jardinage aussi, parce que ça prend du temps, ça va prendre forme lentement, il va y avoir un vrai travail d'écriture quand même. En tout cas, Journal d'une mère à l'envers, ça a pris plusieurs années, donc beaucoup de réécriture. Et une écriture fragmentaire qui est vraiment, ce que je dis un moment dans le livre, c'est peut-être le temps dont les mères disposent pour écrire, c'est par fragments.
Oui.
Parce que je ne peux pas, comme Azadeh, consacrer toutes mes matinées à l'écriture, c'est tout simplement pas possible. Et sans doute que ce ne serait même pas mon rythme.
Oui.
Je vais quand même plutôt écrire le soir, la nuit, quand tout se calme, quand il n'y a plus personne qui me demande rien.
D'accord.
Là, c'est un temps pour moi. Mais avec le risque du burn-out, et on revient au sujet la semaine dernière, où à force, ça fait beaucoup. Donc ça a pris vraiment sur le sommeil. En tout cas, le premier livre que j'ai écrit, c'était Journal d'une psychanalyste à l'hôpital face à l'avortement. Je l'ai écrit beaucoup de nuit, et ça, je refuse de le faire maintenant. Je me dis qu'il faut du temps, et c'est pour ça que je travaille moins, pour écrire aussi la journée.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'écriture, effectivement, peut être un refuge, mais c'est aussi un travail. C'est aussi un travail. C'est quelque chose dans lequel on peut se perdre, c'est ça ?
Se perdre, tout dépend si on arrive au bout, à un moment donné, de créer un objet littéraire, c'est quand même très satisfaisant. C'est là où on sent qu'on a transformé quelque chose de l'ordre de l'émotion sous forme de mots. Et donc, il y a cette fameuse distance. Il y a quelque chose d'une réalisation, quand même. Et ça, c'est... Oui, ça fait du bien. et ça donne envie de continuer, de créer, et puis ça donne d'autres idées, et puis d'autres recueils de poésie, d'autres formes, parce que c'est ça l'intérêt pour moi, c'est de passer du journal à la poésie, au fragment, à la vignette clinique, à la chronique radio. Tout ça, c'est de l'écriture.
Oui, c'est de l'écriture, mais attention à ne pas travailler trop. C'est ce que vous disiez, c'est ça ?
On n'a qu'une vie. Il n'y a que 24 heures dans une journée.
Je comprends tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage d'habitude d'écriture, de processus créatif. Notre prochaine invitée, comme vous voulez, donc Noélie Bascal, qui a envie de se lancer sur ces... sur ce sujet. Pascal Battistelli, donc, quelles sont, si vous en avez, quelles sont vos habitudes d'écriture ?
Alors, comme je rebondis sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand on travaille, qu'on a des enfants, on s'arrache, on va arracher du temps pour soi, pour écrire. Et c'est une vraie... une satisfaction quand on arrive à se détacher ce temps pour soi, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je suis en vacances, que je suis seule, que je n'ai pas d'obligation et que ça me vient, ça sera le matin. Mais j'aime bien écrire le soir quand même, parce que je mets le casque avec ma musique. Il peut se passer ce qui se passe dans mon salon, ce n'est pas grave, et je passe en... c'est presque de l'auto-hypnose. Hein. Je passe en mode écriture, je me mets en mode avion, et il n'y a plus personne, et j'écris. Et alors, je peux écrire sur... effectivement, les poésies, longtemps, c'était sur des feuilles volantes. Après, ça a été... on a eu les téléphones, donc ça peut être le téléphone, noter une idée, etc. Ça peut être sur un carnet, parce que j'ai toujours un petit carnet dans le sac. Mais par contre, pour le roman, on n'est pas du tout dans le même processus. Il y a une discipline, en tout cas, des rendez-vous à se donner avec soi-même. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et d'être sur le continu, puisque c'est un vrai projet sur du long terme, parce que c'est long quand même. Et donc, le premier rêve rythmique, je l'avais écrit directement sur l'ordinateur. Donc, avec tout le processus de lecture, relecture, écriture, on jette. Et là, sur celui sur lequel je travaille actuellement, je l'ai écrit sur un carnet, parce que je peux écrire partout. Chez le dentiste, dans la salle d'attente chez le docteur, n'importe où, dans le tram, peu importe. Mais le plus dur, c'est de recopier. Parce que j'ai beaucoup écrit.
Voilà. Puis de discerner peut-être aussi, de choisir, de sélectionner.
Oui, de sélectionner, de dire « Ah !» et puis de voir toutes les incohérences déjà sur le premier j'ai écrit. Et puis de dire « Ah non, ça va pas, c'est redondant, ça va pas. Bon. » Et de se dire « Bon allez, tant pis, je tape au kilomètre, je fais mon squelette, je mets les muscles, puis on verra pour la peau plus tard. On mettra de la poésie, on mettra tout ça après. » Et de pas perdre le fil de la cohérence de l'histoire. Et donc ça c'est pour le roman. Mais après, pour les recueils, j'ai énormément de poésie. Et après, c'est de sélectionner les thématiques qui vont ensemble et de travailler sur... j'ai 2-3 recueils d'avance qui attendent gentiment sur la femme, sur plein de choses.
Sur un corps, en fait, vous travaillez, vous avez l'image de ce corps qui se constitue.
Ah oui, complètement, oui. Oui, c'est... petit alchimiste qui était hyper nul quand même en physique, chimie et biologie, il faut le savoir.
Non, mais vous êtes bonne en alchimie, on ne demande pas plus. Donc vous disiez que vous écoutez de la musique, c'est bien ça quand vous écrivez ?
Oui, beaucoup. J'aime bien, c'était Soufiane Stevens, je pense, pour celui-ci, et Laura Lane, ou je ne sais plus, enfin... pour ce rêve rythmique, mais là en fait pour l'écriture ça peut être soit de la musique zen, soit de la musique j'ai toute une playlist, ça peut être du rock, je vais me mettre dans le mood de la scène que je veux écrire.
D'accord.
Voilà. Et ça peut être j'écoute beaucoup de musique japonaise aussi, donc c'est très varié, mais selon comment ça dépend aussi de mon humeur du jour, donc c'est tout un combiné, il y a plein de choses qui se mettent en place toutes seules et ça vient naturellement, mais en tout cas j'ai besoin du casque pour écrire, et si je suis en extérieur, j'ai pas besoin, mais par contre j'ai toujours le nez en l'air à regarder les nuages, les oiseaux, les fleurs, enfin voilà.
En parlant de musique, c'est le moment d'écouter le petit morceau de cette émission. Vous écoutez Elles épluchent les livres, la deuxième partie de notre émission spéciale sur l'écriture d'autrice occitane. Je suis en compagnie toujours donc de Pascal Battistelli, Magali Milo, Gaëlle Dedecker, Azadeh et Noélie Sanchis. Pour cette dernière partie d'émission, nous continuons à nous intéresser donc aux habitudes de création, au processus créatif, aux habitudes d'écriture. Et donc c'est à vous Noélie. Est-ce que vous avez des habitudes ou des contextes particuliers pour écrire ?
Alors, oui, j'ai des habitudes. J'écris surtout le matin. Mm-hmm. Et après, quand j'ai pas danse, je danse l'après-midi, j'écris aussi. Du coup, en fait, en premier lieu, quand j'ai une idée avec un thème, je commence à faire mon résumé.
Oui.
Et après, je cherche les prénoms pour mes personnages. Mmh. Et ensuite, je fais mes fiches de personnages avec les descriptions physiques. Ensuite, comment ils sont mentalement aussi, le caractère. Et après, je commence à écrire sur un cahier de brouillon mes premiers chapitres. Par exemple, mes deux ou trois premiers chapitres. J'écris au cahier de brouillon et ensuite, je recopie tout sur l'ordinateur. Et après, la machine est lancée et j'écris le plus possible, enfin, au fil des mois. Voilà.
C'est une vraie méthode, c'est une vraie recette de cuisine, donc c'est comme ça qu'on écrit un livre ? C'est vraiment votre méthode ?
Pour moi, c'est ma méthode. Après,
c'est chouette.
Je pense que chacun a sa propre méthode, mais moi, c'est comme ça que...
Et qu'est-ce qui vous a inspiré, cette manière de faire ?
Je pense les films, en fait.
Ouais.
Souvent, quand je regarde un film, je regarde bien les personnages, comment ils sont physiquement, en premier lieu. Ensuite, je vois leur évolution au fur et à mesure, jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai souvent remarqué qu'en fait, au début, le personnage, il a ses habitudes, il a un quotidien. Et après, il y a un élément qui va venir et qui va tout changer, tout chambouler. Donc, du coup, voilà, enfin... Je pars de cette idée-là. Et après, au fur et à mesure, ben, j'évolue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ce changement-là? Et comment ça va continuer à évoluer dans ce sens-là? Quels choix ils vont prendre? Quel chemin? Ensuite, les autres personnages qu'ils vont rencontrer. Voilà. Fin.
Et il y a une ambiance, un lieu qui est particulièrement propice ou vous pouvez écrire partout?
Souvent, j'aime bien écrire... à la salle à manger,
ouais.
Ou alors quand il fait beau, ben, sur la terrasse.
Au milieu de votre lieu de vie personnel, oui, en fait. Hein, voilà. C'est...
Ouais.
Il n'y a pas besoin de ce jardin, comme avait besoin Azadeh, ou il n'y a pas besoin de cette nuit de Gaëlle de Descoeurs. Vous, vous êtes au cœur de votre vie de couple, de votre vie de famille, de votre vie de femme.
Oui, voilà.
Et c'est ce qui vous porte pour l'écriture.
Oui. Bon, et... après, peut-être qu'un jour, ça va changer. Peut-être que je vais me dire, oh, je vais aller dans un café pour écrire, oui. Ou... Voilà. Oui, pour l'instant, c'est comme ça. Et...
C'est comme ça. Voilà. Et donc, vous écrivez des livres, bien sûr, mais en tant que professeur de musique, est-ce que vous êtes aussi chorégraphe de danse? Professeur de danse, pourquoi j'ai dit de musique? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes aussi chorégraphe?
Oui.
Ouais. Et donc, est-ce que c'est là aussi une forme d'écriture pour vous, la chorégraphie?
Oui. Et en fait, bah, là aussi, il y a des personnages, on invente une histoire et on voit les personnages évoluer. Il y a la rencontre aussi entre les protagonistes. Moi, ce que j'adore, c'est les histoires d'amour, c'est comment ils se rencontrent, comment la relation, elle évolue. Voilà. Bon, après, moi, j'aime bien quand ça se termine bien, donc...
Donc, dans vos chorégraphies, vous retrouvez des éléments de vos romans, finalement.
Oui. J'essaye de mettre des couleurs, de la joie de vivre, de la douceur, de la poésie, enfin, voilà.
Et comment c'est accueilli par vos élèves?
Ça va, c'est bien accueilli. Ouais, ils aiment bien. Ouais.
Et sur quel type donc, c'est de la musique classique, je présume? Vous êtes...
Oui, sur la musique classique. Après, j'aime bien des fois mettre un peu de moderne. J'aime beaucoup aussi la musique espagnole.
D'accord. Qu'on retrouve moins dans vos romans, la musique espagnole. On a retrouvé beaucoup le classique, finalement, dans les deux premiers.
Oui, le classique. Mais dans un ballet de toiles et d'étoiles, mon personnage principal, Amy, elle aime beaucoup Don Quichotte, le ballet.
Oui.
Et du coup, c'est mes origines, l'Espagne. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu mettre un petit peu cette petite patte de côté espagnol.
D'accord. Donc l'Espagne, c'est aussi une source d'inspiration pour vous?
Oui.
Sur ces deux axes créatifs qui sont la chorégraphie, la danse et l'écriture.
Oui, et après, ben, la peinture.
Et la peinture, comme vous disiez, avec des gaz. Ouais, vous disiez ça dans l'émission précédente.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À Magali Milo, alors, cette question du processus créatif, je vous l'ai déjà posée, donc je ne vais pas vous la reposer. Pour les auditeurs, les auditrices qui sont curieux, je vous invite à écouter l'émission que nous avons enregistrée ensemble en octobre dernier, qui présentait donc votre ouvrage « Mon burn-out en blouse blanche ». Et donc là, vraiment, on a passé un bon quart d'heure à parler de vos habitudes. Voilà. Pour vous, une question un peu différente, qui est, je pense, inédite dans cette émission. Votre ouvrage a paru à quelle date déjà ?
Début octobre 2025.
Tout début octobre, oui. Donc on avait enregistré l'émission dans le courant de la parution.
Oui,
ouais. C'est ça. Donc on est aujourd'hui mi-avril, donc l'ouvrage a commencé sa vie un peu sans vous, un peu comme un enfant qu'on laisse s'envoler du nid.
C'est ça.
Comment ça se passe en tant qu'autrice? Comment on continue à défendre son ouvrage par la suite? Parce qu'il y a tout le feu, les paillettes du début, comment ça se passe après?
Alors, comment ça se passe après? Ben, je pense qu'il faut beaucoup d'enthousiasme encore après pour le porter. Ce qui, moi, me va très bien, puisque je suis toujours à fond sur ce que je fais, sur mes romans, sur ce livre-ci. Et puis, ben, c'est sûr qu'on est un peu plus seul, j'allais dire. Voilà, mais moi, j'ai J'ai eu l'habitude, puisque les deux premiers romans, comme je les avais auto-édités, c'est moi qui faisais déjà beaucoup de choses.
Alors un peu plus seule, c'est-à-dire ?
Un peu plus seule, à porter le livre,
moins
je dirais.
Soutenue par la maison, par l'attaché.
Alors, si, j'ai une super attachée de presse, elle est toujours à fond. Mais moins parce que c'est un peu l'époque où les livres ont, j'allais dire, une durée de vie, c'est un peu horrible à dire, mais ont une durée de vie, en tout cas en tant que livre présent, on va dire, sur les...
Sur table en librairie.
Table en librairie. Et on sait qu'il y a ces 3 mois un peu fatidiques où c'est là qu'il faut, entre guillemets, vendre ces livres ou ses romans et qu'ils soient connus dans cette période-là. Et après, on passe dans une période qui est un peu autre, un peu plus tranquille. Mais en fait, moi, je pense que non. Enfin, je ne le vois pas, ce 3 mois. Je me dis, continuer à présenter, à faire ce que j'aime et à le porter. Pourquoi il ne pourrait pas décoller après les 3 mois?
Comment concrètement vous continuez à le porter? Par quelles actions de votre part?
Après, je continue sur les réseaux, je continue à essayer de faire du lien. J'ai rencontré quand même pas mal de personnes un peu formidables. J'ai retourné 2 podcasts récemment, dont un sur le burn-out qui s'appelle La Relève, qui est vraiment centré sur le burn-out, mais c'est très très intéressant. Elle interviewe plein de professionnels et puis aussi de personnes qui ont vécu un burn-out. Et vraiment, toutes ces rencontres et le fait de continuer à porter le livre, je trouve que ça a du sens et que ça me plaît. Donc, j'y mets toute ma joie et ça continue.
Les auditeurs les plus chanceux ont pu vous rencontrer donc samedi dernier à la librairie. Quels sont vos futurs... quels seront vos futurs endroits de rencontre, en fait? Comment ceux qui vous ont loupé samedi dernier à la librairie, quand est-ce qu'ils pourraient vous rencontrer à nouveau prochainement?
Oui, j'espère peut-être être présente à la Comédie du Livre, donc qui se tiendra à Montpellier, le week-end du 25-26 mai.
C'est ça.
Notamment, Et puis après, je dois faire aussi une petite intervention à la faculté de médecine avec les étudiants pour faire de la prévention. Et parler aussi de mon livre à cette occasion-là. Et puis après, qui veut me contacter, je suis là. Et puis je continue sur les réseaux, un petit peu comme mes co-autrices, et à parler de mon livre et à parler de nos romans pour les faire vivre au plus.
Pour terminer cette émission, est-ce que l'une d'entre vous a envie de rebondir sur cette manière de continuer à porter son ouvrage quelques mois après la parution, en 2 ou 3 mois? Pascal Battistelli?
Oui, je pense qu'un livre, en fait, a toujours un lecteur et le lecteur a toujours son livre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais livre. Et un livre, il est là pour durer dans le temps. Et moi, j'aime beaucoup ce livre de Carlos Ruiz Zafón avec le cimetière des livres oubliés, et où on peut trouver. Je pense qu'il faut un livre n'est jamais obsolète. Donc, on peut le défendre sur la longueur. On ne le défendra pas de la même façon, puisque le temps passe et que nous aussi, on change et qu'on va écrire aussi d'autres livres. Mais en parlant des derniers livres, on fait forcément référence au livre qui a déjà vécu et qui est là et qui vit encore. Et voilà, il faut les défendre avec amour.
Je pense que ce sera le mot de la fin. C'était un très beau mot et je vois Noélie Sanchez qui dit bravo. Parler d'amour en fin d'émission, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes les 5, Pascal, Noélie, Azadé, Gaëlle et Magali. C'est une super expérience. Je suis très contente.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour nos auditeurs sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en 2.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre.